J'ai remercié le CRH, le Centre de recherche historique, de récolter aux études, en particulier parce qu'il n'a pas hésité, tout au long de son histoire, à accueillir en son sein des personnes qui avaient eu un parcours parfois hors normes, et certains qui étaient passés par la case de prison. À commencer par ce qui était ma directrice d'études, Christiane Capis-Zuber, qui avait été accueillie par Fernand Braudel déjà au début de l'école d'études. Et Christiane Capis-Zuber, que certains ne le savent pas, avait passé un an de prison à la Petite Roquette lors de la guerre d'Algérie, puisqu'elle était engagée dans le réseau anticolonial. Les centres de recherche historique m'ont accueilli moi, à travers Christiane Capis aussi, a accueilli Philippe Maurice et a accueilli Yves Cohen, qui lui aussi était passé par la case de prison. Chacun racontera son expérience. Le thème de cette table ronde, la souffrance dans l'enfermement, monastère de prison, hôpital psychiatrique. On aurait pu, comme avait fait Michel Foucault, élargir cette réflexion à d'autres lieux d'enfermement, comme les galères, les navires de guerre, la maison de la correction pour jeunes, pour femmes. On limite aujourd'hui à ces trois lieux, monastère, prison, hôpital psychiatrique, puisqu'il y a une continuité, il y a une filiation de ces formes d'enfermement. Les dénominateurs communs de toutes ces formes d'enfermement sont la punition ou l'autopunition, la soumission à une discipline comportementale et morale, la soujection à une hiérarchie stricte, l'infériorisation extrême jusqu'à la déshumanisation des individus. Mais probablement ce qui caractérise le plus et assimile toutes ces institutions, c'est la philosophie de la souffrance, je crois. Puisque c'est cette idéologie de la souffrance qui fonde toutes ces institutions. C'est le pivot du système, articulé ensuite en lieu fermé, mur, porte et barreaux, bruit et odeur, silence et cri. Or nous savons que les lieux d'enfermement ont une histoire, comme l'ont les délits et les peines. Pour ce qui est des délits, nous savons que l'homosexualité, par exemple, qui avait été férocement poursuivie pendant des siècles, jusqu'au bûcher, aujourd'hui, elle ne pose plus aucun problème dans les pays occidentaux. Pour ce qui concerne les délits aussi, la pédophilie, aujourd'hui qui est considérée crime des crimes, n'était pratiquement pas puni jusqu'à une époque très récente et pas considérée. Nous savons aussi que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la peine de prison était rare et rarement de longue durée. Elle était appliquée notamment par les tribunaux ecclésiastiques à l'égard des religieux criminels, d'après la législation ecclésiastique. En particulier, la peine de prison était émise contre des moines ou des curés qui avaient eu des comportements contraires aux vœux de chasteté. Et pour ça, on pouvait les condamner à un an, deux ans. Je n'ai pas trouvé plus dans mes études sur l'Inquisition, assorti en particulier de ces rites qui comprenaient comme punition la discipline. Or, la discipline n'était rien d'autre que les fouets donnés à tour de rôle par les moines de la communauté aux moines fautifs. Mais nous savons aussi que de l'Antiquité à l'époque moderne, à la fin de l'époque moderne, convention, les peines étaient surtout pécuniaires, ou alors l'exclusion sociale, bannissement, confinement, et corporel. D'exécution capitale au fouet, en passant pour la mutilation d'organes et le pilori. Or, on a conçu et présenté les passages du supplice des peines corporelles à la peine de prison comme un passage de civilisation de la barbarie à l'état moderne. Or, personne ne va regretter les processions de l'Inquisition avec les condamnés montés sur une charrette ou à dos d'âne, une corde au cou, tenaillés, démembrés, enfin pendus et brûlés. Mais personne non plus ne peut ignorer la quantité de souffrance du corps et de la psyché contenue dans une peine de prison. Une souffrance plus lente, pour certains aspects plus insupportable. Or, cette philosophie de la peine de prison tient au fait de la philosophie classique, la théologie en effet, séparant les corps et l'âme, la matière, l'esprit, la conscience et les sensations. Or, la mesure fermée de l'Albaro, pensée ce soir, c'est la photo que j'ai choisie pour illustrer l'annonce, la tête entre ses mains, dit clairement l'impossible séparation entre les corps et l'esprit. Nous savons aussi qu'il y a une filiation des liens d'enfermement, une filiation directe, architecturale, voire les faits que la plupart des prisons du début du 19e siècle, en France comme ailleurs en Europe, ont été faits en transformant des anciens monastères. Il y a une filiation terminologique, on pense aux cellules, on pense au terme pénitentiaire, à la pénitence. Il y a une filiation de la gestion, de l'encadrement, de la hiérarchie. Je vous rappelle que les religieuses sont présentes dans les prisons pour femmes comme la petite roquette jusqu'aux années 70. Voilà. Mais, ceci dit, cette filiation pose la question centrale qui est la suivante. Comment et pourquoi s'est-il opéré le transfert de l'enfermement monastique à l'enfermement carcéral, puisque la culture monastique était partie intégrante et constitutive d'une culture religieuse fondée sur la souffrance comme expiation du péché originel, comme discipline de vie refusant le plaisir terrestre pour mieux goûter des plaisirs de l'au-delà. C'était un libre choix des moines moniales faisant de la souffrance une vertu, les chemins pour atteindre le salut spirituel. Mais comment est-on passé d'un choix personnel à une contrainte sur autrui, faisant de la souffrance une norme, une discipline quotidienne, un principe de rééducation, de rédemption? Et comment, à l'image des saints et des moniales martyrisant leur corps, certains individus peuvent-ils réagir à la souffrance imposée par l'institution en la redoublant par une souffrance volontaire, de l'automutilation au suicide? Nous avons voulu aborder cette question par une approche d'ego-psycho-histoire. Et pour cela, nous avons associé aujourd'hui dans cette table ronde des spécialistes des sciences sociales et des témoins de l'expérience d'enfermement. Je suis à côté de Philippe Maurice et de Gabriel Muesca, qui ont fait respectivement 22 ans et 17 ans de prison. Donc j'ai du mal à évoquer quelques mois de prison que j'ai fait moi-même, entre l'Italie, la France, l'Espagne. J'avais commencé par un mois de prison au Maroc quand j'avais 18 ans. Et c'était quand même un trauma dans ma vie, puisque j'étais jeune et je me suis retrouvé dans une cellule avec 30 autres personnes à dormir sur un sol en béton, obligé de dormir en quinconce puisqu'il n'y avait pas la place pour s'allonger sur le dos, un privilège réservé aux caïds et aux plus forts à l'intérieur du groupe. Et je m'étais juré de plus jamais remettre les pieds dans une prison après cette expérience. Et puis je suis retombé, mais j'ai heureusement pu éviter des années de prison quand ça chauffait. Je pense aussi qu'une simple garde à vue de 24 heures peut être redoutable pour tout être humain. Les rituels pervers de la garde à vue consistent à vous mettre tout nu, fouiller au corps, vous mettre dans une cellule nauséabonde, sous une banquette en béton, et vous faire toutes sortes de misères et d'humiliations pendant la garde à vue. Une seule journée, je considère qu'il peut être traumatisante pour un individu.
D'aborder la question de la souffrance des religieux emprisonnés, je souhaiterais évoquer rapidement la souffrance suscitée chez les religieux par l'enfermement volontaire. Les textes normatifs, comme les sources exemplaires, insistent sur la dureté de la vie régulière, parfois qualifiée d'aspéritates disciplinae regularis. On parle des aspérités, de la dureté, des duretés de la discipline régulière, et ce, afin d'éviter les conversions trop hâtives. Ainsi, les coutumes de Saint Mathias et de Saint Maximin de Trèves, rédigées en 1435, exigent du supérieur qu'il prévienne les aspirants à la vie monastique de la dureté de la vie cénobitique, en insistant notamment sur la longueur des offices divins, sur le jeûne, sur l'abstinence de la chair et l'abdication de la volonté propre, destinée à mortifier la chair et l'esprit afin d'atteindre l'humilitas. De fait, l'entrée dans la vie monastique provoque parfois des réactions de rejet violents, dont témoignent des récits, qu'ils soient exemplaires ou autobiographiques. Ces documents, destinés aux religieux, les mettent en garde contre les péchés dans lesquels ils pourraient sombrer, l'un des principaux étant l'ascédie. L'ascédie désigne chez les pères du désert les tourments des ermites, puis chez les auteurs monastiques, la tiédeur, le dégoût, la tristesse, la mélancolie ou encore le désespoir qui se saisissent des moines et qui peut aller jusqu'à la haine de l'état monastique. Dans le Dialogus Miraculorum, rédigé vers 1220 par Césaire d'Eisterbach, celui-ci raconte comment une jeune vierge, qui refuse le mariage, décide de devenir religieuse. Mais au bout de quelques jours passés dans le monastère, la nonne tombe malade et, je cite, « commence à chanceler dans la foi. Elle est envahie par des faiblesses du cœur, par un dépérissement corporel, par un manque de motivation pour la prière et par la souffrance d'être enfermée. » C'est le surtitre que j'avais choisi dans ma communication. Césaire d'Eisterbach parle de dolor, la douleur provoquée par la réclusion. À l'abbé cistercien de Brunbach qui vient la visiter, puisqu'il a été averti par les moines que cette moniale chancelait dans sa foi, elle affirme « Je vis mal, je me sens mal et je ne sais plus du tout pourquoi ni pour qui je suis enfermée. » En pleine crise de vocation, elle dit à l'abbé « Qui sait si Dieu existe ? Qui a vu tout cela ? Qui est revenu de là-haut et nous a décrit ce qu'il a vu ?» Elle supplie l'abbé de la laisser sortir car, et je cite toujours, « Elle ne peut plus supporter cet enfermement. » Elle ne peut plus donc sustinere reclusionem. Ce désespoir qui se saisit des religieux après leur entrée dans le cloître est également décrit par Hugues de Miramar, un chartreux qui rédige dans la seconde moitié du XIIIe siècle un récit autobiographique, le Liber de Miseria Hominis, dans lequel il narre son entrée dans la chartreuse de Montrieux, en 1236, alors qu'il est âgé d'une cinquantaine d'années. Et qu'il a mené toute une vie durant, une vie de confort et d'opulence, c'est une conversion tardive. Il écrit « Je me tenais droit dans mon habit de novice et croyais être en sécurité quand, contre toute attente, se lève entre ma chair et mon esprit un très grand trouble, un combat, un conflit. Car ma chair, sensible aux piqûres du cilice, à la dureté du lit, à la solitude du lieu, à la grossièreté des aliments, à la longueur de l'office ecclésiastique, surtout celui des matines, au jeûne continuel et à l'absence de toute consolation, ma chair donc fut en proie à la douleur, comme un cheval couvert de plaies, quand on le touche et regimba contre l'esprit. L'aversion pour la vie cénobitique se manifeste dans ces deux récits du XIIIe siècle, à la fois par un trouble de l'esprit et du corps. La moniale dépérit tandis que Hugues insiste sur l'intolérance de son corps à la rigueur de la règle et sur la rébellion de sa chair. Dans les deux cas, l'épisode d'ascédie est présenté comme une épreuve. Césaire d'Heisterbach fait de la moniale la victime des assauts du diable, jaloux de sa ferveur religieuse. L'épreuve de l'ascédie est une tentation. Quant à Hugues, son ascédie est une des manifestations du péché d'orgueil qui lui fait regretter sa vie antérieure d'homme du monde. La moniale ascédiaque est sauvée de sa mélancolie par les prières des moines, mais aussi par le réconfort de visions christiques qui mettent fin à ses doutes. Quant à Hugues, il trouve le salut dans la méditation des souffrances du Christ. Il écrit « Ô ma chère, que l'âpreté du cilice, du lit et de la nourriture ne te trouble pas, mais considère avec soin et sois attentive à voir quelle âpreté et âcreté connut le Christ quand il a subi la passion, quand son corps fut flagellé, sa barbe rasée, quand il fut couronné d'épines, but du fiel et du vinaigre, porta sa croix et y fut cloué, eut le côté transpercé et essuya main opprobre. » Dans ces récits, dans ces deux récits comme dans beaucoup d'autres, la souffrance des religieux est souvent considérée comme l'une des formes possibles d'imitatio Christi. L'ascédie et la souffrance provoquée par l'enfermement sont présentées comme une étape nécessaire à la croissance de la vie intérieure, comme une mise à l'épreuve de la vocation et de l'adhésion au propositum de la vie monastique. Cependant, si l'on considère des sources plus tardives, datant du XVe siècle, on peut constater que les tourments décrits par les religieux ne sont pas toujours transcendés par une foi sans faille. Et donc, avant de m'intéresser donc à l'enfermement, aux souffrances de l'enfermement punitif, je voudrais simplement soumettre à votre réflexion une supplique qui vient de la pénitencerie apostolique. La pénitencerie apostolique est un office pontifical chargé de conférer des grâces à différentes natures, aux clercs comme aux laïcs qui ont transgressé le droit canonique. Dans les registres de supplique de la pénitencerie, donc c'est un office qui existe depuis le XIIe siècle, mais dont les registres n'ont été conservés qu'à partir du XVe siècle, on trouve de nombreuses suppliques de religieux demandant à pouvoir changer d'ordre ou de monastère et sollicitant une dispense pontificale. En théorie, en effet, les religieux sont astreints à la stabilité et à l'obéissance à leurs supérieurs, et ils doivent rester leur vie durant dans le même monastère. Le pape, au nom de sa toute-puissance, peut cependant conférer des dispenses qui permettent à ses religieux de déroger aux règles. L'argument canonique le plus souvent invoqué dans les suppliques, qui sont rédigées par les religieux, mais avec l'aide de procureurs rompus au droit canonique, l'argument le plus souvent mobilisé consiste à dire qu'ils ne peuvent rester dans le monastère avec la conscience saine, sana conscientia. Il s'agit pour les religieux d'invoquer la lex privata, face aux règles de droit, donc d'échapper ainsi au monastère pour aller le plus souvent donc, dans un autre monastère qui n'est pas forcément un monastère avec une règle plus dure. Dans le droit canonique, le transfert est autorisé si vous passez d'un monastère avec une règle considérée comme plus souple à une règle plus dure, notamment chez les chartreux. Donc la plupart des suppliques qui sont copiées dans les registres de la pénitencerie sont des versions abrégées de suppliques originales et donc ne retiennent que cet argument canonique. Mais il y a quelques semaines, je suis tombée sur une supplique assez rare car les scribes de la pénitencerie ont transcrit l'argumentation donnée par le moine. Donc je la mentionne simplement parce que c'est une belle supplique, mais je ne l'analyserai pas plus amplement. En 1499, Johannes Zwering, un chanoine régulier d'Oldenzaal, dans le diocèse d'Utrecht, dit être tombé, après plusieurs années dans le cloître, dans un état de mélancolie. Il parle de « melancholia sive fantasia », tel qu'il est devenu insomniaque et malade. L'observance de la règle, dit-il, le plonge dans un désespoir plus grand qu'elle ne lui procure calme et salut. Et donc, il justifie le fait d'avoir quitté son monastère, d'avoir apostasié, en arguant qu'il risque de perdre la raison s'il reste dans ce monastère. Et il obtient la dispense pour pouvoir changer d'ordre. Alors, j'en viens à présent à ce qui est le cœur principal de mon propos, à savoir les souffrances des religieux emprisonnés. en m'intéressant à la fois aux conditions d'incarcération et à la perception par les religieux de la peine de prison. L'enfermement carcéral au sein de l'enfermement volontaire est un aspect méconnu de la vie claustrale médiévale. Il est attesté depuis le IVe siècle, mais il se généralise véritablement au XIIIe siècle lorsque plusieurs ordres religieux en font l'un des pivots de leur système pénal. Et donc la prison n'est pas simplement une prison temporaire, hein, ni même une pénitence, elle est conçue comme une peine, et certains religieux sont parfois condamnés à perpétuité à ces prisons. À l'emprisonnement. L'emprisonnement dans un carcère est l'étape ultime d'un processus d'exclusion des religieux délinquants. La solitude dans laquelle est plongé le religieux vise à la fois à l'inciter à la pénitence et à protéger la communauté de la contagion et du scandale. Le caractère pénitentiel de cet enfermement explique qu'il puisse être intermittent, modulé et gradué en fonction des signes de contrition du coupable. À partir de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, cependant, l'enfermement prend une tournure plus pénale et sanctionne les crimes les plus graves. On a une hiérarchie des crimes dans les coutumiers, et le carcère sanctionne donc les crimes les plus graves, ainsi que la rébellion et l'incorrigibilité. Et l'emprisonnement tend à se substituer à l'expulsion qui était prescrite par les règles du Haut Moyen-Âge.
Dans un premier temps, d'abord un retour rapide sur les livres de prison. Et ces livres de prison, ce genre littéraire, c'est un genre où se crée, apparaît le nœud idéologique hein, entre qui mène de la souffrance du corps en particulier, à la mélancolie et à la transformation de l'âme. Donc des thèmes qu'on vient de voir en partie. D'abord, je rappellerai que on a une véritable veine de la littérature de prison, une veine de la littérature de prison qui est parfaitement attestée dans la littérature anglaise. Il y a eu un livre, il y a une dizaine d'années, de Joanna Summers, consacré à cette veine de la littérature de prison anglaise des XIVe et XVe siècles. Dans le domaine français, c'est très connu aussi, parce que là, on a vraiment toute une série de textes d'historiens de la littérature française sur ce thème, d'articles, hein, depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Et dans le domaine français, on compte au total une vingtaine de textes au XIVe et XVe siècle, une vingtaine de textes qui sont vraiment des témoignages de captivité, donc faits par des personnes qui sont captives. Tous ces textes, à l'exception de deux, hein, sur cette vingtaine de textes, là, je vais concentrer mon regard sur le domaine français, tous ces textes, à l'exception de deux, sont datés du XVe siècle. Donc on a deux textes au XIVe siècle, et puis le reste vraiment se concentre au XVe siècle. Et dans cette galerie des écrivains prisonniers, on rencontre tout simplement les grands noms de la littérature française du XVe siècle, Charles d'Orléans, François Villon, Olivier de la Marche, Philippe de Comines, René d'Anjou, etc. Alors, dans cette veine tardo-médiévale hein, de la littérature de prison, il y a un certain nombre de traits saillants que je vais mentionner ici sans trop y insister, encore une fois, pour ne pas répéter ce qui a été déjà dit. Premier trait saillant, c'est le focus de cette littérature sur la pénibilité physique. C'est un élément de fait caractéristique et qui donne du coup une tonalité à l'ensemble, d'après les historiens de littérature, à l'ensemble de la littérature du XVe siècle, c'est-à-dire cette place de la pénibilité physique dans ces textes. Deuxième chose, c'est le focus sur l'atteinte à la subjectivité que produit la captivité, que produit une situation d'enfermement. Et troisième trait saillant, c'est la transfiguration de ces tourments à la fois physiques et mentaux hein, en épreuve de patience. Donc, chose relativement attendue quand on vient d'entendre ce que Elisabeth a rapporté sur la situation des moines enfermés. Alors, sur la pénibilité physique de l'enfermement, les textes n'hésitent pas à être très réalistes, ou parfois ils choisissent plutôt un style métaphorique, mais ils peuvent être donc très réalistes, et ils disent véritablement la souffrance des corps, c'est-à-dire qu'ils disent le froid, ou au contraire la chaleur, ils disent l'obscurité, ils disent la faim, la saleté, ils disent la présence des parasites, ils disent la douleur engendrée par les fers hein, qui mordent la chair. De la même façon, les dispositifs matériels de contention, les murs, la fosse, éventuellement les fers, hein, sont mentionnés. Ils sont mentionnés en raison de la douleur qu'ils infligent au corps. Bon, alors je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui sont extrêmement précis là-dessus. Par exemple, sans doute le plus précis dans ce registre, hein, c'est Philippe de Vigneul, qui, dans sa chronique, à la fin du XVe siècle, hein, a raconté ses 13 mois de captivité et a véritablement, enfin, ne passe sur aucun des détails de cette très pénible captivité. Deuxième élément, donc, l'importance, hein, de la pénibilité physique et le détail qui est consacré à cet exposé. Deuxième élément, c'est l'atteinte à la subjectivité. C'est-à-dire que la captivité provoque, hein, une atteinte à la subjectivité, et la première chose qui apparaît, c'est que dans l'espace enfermé, dans l'espace réduit, le sujet se trouve en adéquation. Et d'une certaine façon, se trouve d'abord dans une situation que la plupart des textes qualifient de désconfort. Donc c'est vraiment le terme le plus fréquent qu'on trouve dans l'ensemble de cette littérature de prison. Donc le sujet est dans une situation de désconfort, dans cet espace enfermé, dans cet espace réduit. Et puis, par moment, le sujet, tout simplement, entre en crise. Même quand il n'y a pas de mise au fer, même quand il n'y a pas de captivité dans une basse fosse, bon, les textes disent la douleur de l'enfermement dans des espaces réduits, ils disent le mal de la captivité. Et ce mal de la captivité, il est véritablement commun aux combattants mis à rançon et qui sont des combattants de prix, hein, les chevaliers qui sont pris par des ennemis et qui sont retenus captifs dans un château, mais qui apparemment n'ont pas quand même une captivité trop inconfortable. Ce mal de la captivité est quand même, hein, un élément commun à ces combattants de prix et aux prisonniers qui se retrouvent détenus dans des culs de basse fosse. Alors, les écrivains évoquent, par exemple, c'est un terme qui revient plusieurs fois chez plusieurs écrivains, la cage dans laquelle ils sont enfermés comme des oiseaux. Donc, thématique de la cage, qui fait de la prison vraiment un lieu inadéquat dans lequel la subjectivité ne peut trouver à s'adapter. Ils disent aussi l'exil dans lequel les plonge la prison. Étrange, mais la prison, pour Jean Régnier. Et puis Villon emploie carrément le terme d'exil. Cette atteinte à la subjectivité, qui est provoquée par la situation même de captivité, elle se traduit aussi dans l'écriture par l'atteinte à la chair. Et donc, plusieurs textes, hein, disent que la captivité produit une déformation du corps. Elle produit, par exemple, une décoloration du visage. Et donc, ils disent, mon visage change de couleur. Elle produit une anormale pilosité. Voilà, donc des transformations qui sont uniquement imputables à la captivité. Elle produit la maigreur du corps aussi, et sans, là encore, je pourrais citer plusieurs vers ou plusieurs textes, plusieurs auteurs, mais on a un élément commun, cette atteinte à la chair qui est provoquée par la captivité et qui finalement traduit l'atteinte à la subjectivité. C'est-à-dire que c'est tout le sujet qui est amoindri par l'épreuve de l'enfermement, et c'est tout le sujet qui craint, dans l'épreuve de la captivité, son propre anéantissement. Et c'est d'abord le visage, et souvent le ventre, hein, qui sont les premiers témoins de ce début d'anéantissement. Bon. Comment comprendre cette amplification, cette naissance, et cette amplification des écritures de captivité, cette importance de la souffrance dans ces écritures de captivité, et puis, immédiatement lié au thème de la souffrance, le thème de la contrition ou de l'expiation, comment l'interpréter, les interpréter dans le contexte des XIVe et XVe siècles. Alors, première chose que l'on pourrait mentionner, c'est que les XIVe, XVe siècles, à vrai dire, ça ne commence pas au XIVe siècle, ça commence au XIIIe siècle, mais le bas Moyen-Âge est un moment où évolue, où le droit de la prison évolue, et où les droits médiévaux font une place croissante à la peine de prison. Hein, quand bien même ce que vous avez dit en introduction est absolument juste, c'est-à-dire que la peine de prison reste une solution pénale minoritaire, hein, et que la prison sert d'abord à contraindre, et elle sert d'abord, hein, à maintenir une personne en prison jusqu'à son jugement. Donc, la prison a d'abord pour fonction la prévention et la coercition, mais malgré tout, les droits médiévaux à partir du XIIIe siècle, hein, font une place croissante à la peine de prison. Je n'ai pas le temps ici de détailler cet élément, mais c'est quand même quelque chose qui est bien connu depuis au moins des articles des années 1960. Bon. Donc on pourrait voir peut-être là un lien. Deuxième élément, qui me semble à mon avis plus sûr, hein, bizarrement, c'est que ces XIVe et XVe siècles, ce sont pour des espaces que j'ai considérés, des espaces qui sont quasi perpétuellement en guerre. Donc ce sont des espaces qui sont quasi perpétuellement en guerre et où la captivité se vit d'abord dans un contexte de guerre. Donc c'est des captivités de combattants ou des captivités de simples habitants qui sont soumis, enfin qui sont pris par des brigands, pris par les ennemis de la personne qui revendique la souveraineté sur tel ou tel territoire, mais donc dans le cadre de confrontations militaires. Cet élément contextuel de la guerre, qui est décisif pour les 14e, 15e siècle, à mon avis, doit aussi être pris en considération pour essayer d'interpréter la manière dont enflent les témoignages de captivité. Parce que aussi bien les lettres de rémission que les textes littéraires, que les miracles de délivrance, de prisonniers qui augmentent, vraiment les motifs d'emprisonnement qui sont les plus massifs, quantitativement les plus massifs, ce sont la captivité de guerre, qui est vraiment la plus numériquement la plus importante. Troisième chose, mais qui à mon avis est absolument liée, c'est le processus, on pourrait dire un processus global d'institutionnalisation, c'est-à-dire que les 14e et 15e siècles sont des moments, c'est à la fois très général et très connu, sont des moments d'institutionnalisation étatique, et cette institutionnalisation étatique a notamment pour traduction ce contexte guerrier quasi permanent. C'est-à-dire que c'est la compétition d'États en cours d'institutionnalisation qui produit ce contexte guerrier. Cette institutionnalisation globale, étatique, elle passe aussi par la création d'un certain nombre de types d'interventions royales. La grâce souveraine, par exemple, en est une manifestation. Elle passe aussi par un certain nombre de réglementations et de formulations de principes administratif à l'intérieur des institutions, règlement de prison, principe de comportement de ceux qui gardent ces prisons, notamment une chose qu'il faudra, à mon avis, regarder du plus près, qui est le principe de diligence, qui est exigé des gardiens des prisons, des geôliers des prisons. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que le schème idéal, captivité, souffrance morale et physique, transformation morale, est fortement réactivé au bas Moyen-Âge, et il se diffuse peut-être de manière parallèle et en fait relativement distincte par rapport aux évolutions des droits médiévaux quant à la prison. C'est-à-dire que, à mon avis, le lien entre diffusion de la prison pénale et diffusion de ce schème idéal est assez ténu, et que les choses cheminent en parallèle sans que les liens soient véritablement faits à l'époque. À mon avis, ce schème idéal, il est étroitement lié plutôt à l'obéissance et à la suggestion qui sont précisément éprouvées en temps de guerre, au moment où les conflits éprouvent les affiliations des sujets à tel ou tel souverain. Bon. Captivité, souffrance morale et physique, transformation morale, à mon avis, s'expriment de façon beaucoup plus forte au moment où s'imposent des institutions étatiques en développement, notamment des institutions de captivité. Et donc, pour finir d'une phrase, le désconfort du prisonnier, la grande pauvreté et misère du prisonnier, ce sont peut-être les marques de la souveraineté sur le sujet, du souveraineté qui s'affirme véritablement à la fin du XIVe et XVe siècle, les marques d'une souveraineté sur les corps et sur les esprits à la fois.
Remarque avant de commencer, choisir un tel angle d'attaque et un tel objet, ça me contraint naturellement à surestimer la part de la violence dans les relations communautaires. J'ai aucune naïveté sur le fait que les pratiques violentes que je vais décrire au quotidien sont routinisées, banalisées, elles font l'objet de stratégies d'accommodement. Donc les religieuses, les carmélites espagnoles du XVIe siècle, je l'espère, étaient probablement moins tourmentées que les cas que je vais décrire. Il n'empêche que l'institution elle-même, à mon avis, appelle la violence, l'organise pour une part, et puis pour une autre part, la bride, la culpabilise dans le même temps, et que ce n'est pas sans conséquence sur les pratiques personnelles de ces religieuses. Je voudrais vous montrer que dans une institution dans laquelle la violence est premièrement subies, contraintes, et tout ce qui a été dit depuis ce matin, notamment par Elisabeth, sur les rigueurs de l'ordre, l'austérité, la mélancolie de celui qui rentre, la dureté de la règle, l'isolement, toutes ces choses-là sont valables et se retrouvent dans les sources que j'étudie. Je voudrais vous montrer que une des stratégies qui est mobilisée pour passer, pour supporter cette violence subie, c'est d'en faire une violence voulue, hein, et de tourner cette violence subie en avantage. Et je ne parle pas là de la sublimation de la violence au sens religieux du terme, mais je parle vraiment d'un avantage social et même politique dans la communauté du couvent. Alors, on connaît le discours qui légitime l'enfermement démonial, qui articule une conception du corps et du genre, et puis des contraintes sociales. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais je repars brièvement de la conception des rapports entre corps et âme qui conditionnent ces pratiques. La conception religieuse de la personne chez les théologiens qui sont majoritairement thomistes, qui entourent ces religieuses, est tout sauf dualiste, c'est-à-dire que l'homme est un composé de l'âme et du corps qui sont étroitement tissés l'un avec l'autre, de sorte que chacun, âme et corps, pâtit de l'état de l'autre. Ça veut dire que si la personne est soumise à l'esprit, c'est-à-dire la partie supérieure de l'âme, qui peut être illuminée par Dieu, toute la personne, tout en elle peut être sanctifiée, et le corps demeure l'œuvre la plus parfaite et la plus digne de louange de la création. C'est ce que disent les religieux. Si la personne se soumet à la chair, c'est-à-dire si l'esprit et l'âme sont engloutis, avalés, prisonniers de la matière, de la corruption du corps, des assauts pécamineux de la chair, eux-mêmes attisés par le démon, alors le corps doit être châtié et puni au nom même de la gloire dont il devrait être le témoin. Donc c'est une relation dynamique et c'est assez important parce que ça a des conséquences pour ce qui nous rassemble à plusieurs niveaux. J'en note quatre. D'abord, ça appelle la pénitence. La pénitence, c'est une logique judiciaire, c'est-à-dire que c'est une punition infligée au corps pour des péchés passés. Et il y a un certain nombre de modèles hors du cloître qui sont réactualisés à ce moment-là, notamment la punition paternelle. Les punitions qui sont dans le couvent sont parfois explicitement reliées au châtiment dans le cadre de la famille. La scène judiciaire elle-même, et il y a un certain nombre des pénitences qui vous avez décrites dans l'exemplier qui lorgnent assez explicitement du côté de la pratique inquisitoriale. Et puis, naturellement, la scène de la passion proprement dite, qui est une scène judiciaire. Ensuite, deuxième conséquence, c'est la mortification. Les deux termes, mortification et pénitence, sont souvent considérés comme des synonymes. C'est assez vrai, et d'ailleurs, ils sont parfois intervertis dans les sources, mais sont deux logiques différentes. La mortification, c'est une logique prophylactique, médicale. Il s'agit de se soustraire aux occasions de péché, de dompter le corps, de le châtier en quelque sorte par avance pour éviter qu'il ne tombe dans le péché. On est antérieurement à la faute, si vous voulez. Et l'enfermement, de ce point de vue-là, est dans la logique de la mortification, puisqu'il protège ces femmes des péchés qu'elles auraient pu connaître dans le monde, tout comme ils protègent le monde des désordres qu'elles auraient pu y introduire sans être mariées. Troisième conséquence, la temporalité de ces rapports entre âme et corps. Il y a au moins trois temporalités différentes qui s'imbriquent du point de vue des religieuses. D'abord, l'histoire du sujet lui-même qui nous échappe globalement, c'est-à-dire l'histoire de son âme et de son regard sur ses propres péchés. Ensuite, l'histoire de la société dans laquelle elle est immergée, je ne vais pas m'étendre, mais il y a un certain nombre d'éléments en Espagne au XVIe siècle qui appellent à la pénitence. Il y a un accroissement d'un certain nombre de tensions sociales, et puis il y a manifestement dans l'espace public une invasion de processions pénitentielles. Les processions de flagellants qu'on connaît tous sont introduites en Espagne dans les années 1520. Elles sont à peu près diffusées dans toutes les villes de la péninsule autour des années 1570. Et puis vous avez aussi le spectacle inquisitorial, naturellement. Et puis, troisième temporalité, c'est la temporalité du salut lui-même, et ça, c'est assez important. Le monde, au début de l'époque moderne, est supposé toucher à sa fin. C'est un aspect crucial, car les corps sont supposés avoir changé depuis la création. La puberté est plus précoce, se lamentent certains religieux. Les assauts de la sexualité sont plus vifs. D'autres s'interrogent sur les os gigantesques qu'on trouve parfois. Il y a notamment un os probablement de dinosaure hein, dans un trésor de reliques à Liège hein, qui est visité par les voyageurs. Et certains se demandent si ce sont les os des patriarches et on conclut que les corps d'aujourd'hui sont rabougris. Alors ça fait sourire, mais c'est assez symptomatique du fait que sur l'histoire du salut, le corps a été travaillé dans la durée et il porte de plus en plus le poids du péché, il glisse de plus en plus vers la corruption. Et ça veut dire que les fautes de chacun, le sentiment de sa propre faute est un signe de la fin des temps et est un appel à la pénitence pour chacun et pour tout le monde. Quatrième conséquence, c'est une conception du corps qui pèse sur les rapports de genre. L'auteur cité précédemment, j'avais prévu de vous lire une citation qui décrit le, Je suis désolé, je vous prends les empiés, je les ai tous filés.
Depuis tout à l'heure, je ne comprenais pas.
Voilà, l'auteur qui décrit la chute des corps dans les années 1580 et le poids du salut et de la corruption, de l'histoire du salut dans la corruption des corps, décrit également le fait que les corps à son époque, au fin XVIe siècle, sont tous devenus des corps efféminés. Et ce n'est pas du tout anodin. Quel est le raisonnement, sans que j'ai besoin de m'étendre, parce qu'il y a une historiographie assez abondante sur la question? L'âme de la femme est plus faible, elle résiste moins aux assauts de la chair, la pénitence est donc plus importante pour elle, c'est ce que disent les religieux du temps, et donc elle doit être enfermée pour la protéger des tentations, pour sauver la société de ce qu'elle pourrait lui faire subir. Et c'est un enfermement qui a plusieurs strates. La clôture conventuelle elle-même, d'une part, qui est un vieux thème et qui est réaffirmé spécifiquement dans le contexte et généralisé avec le Concile de Trente. La clôture du corps lui-même, c'est-à-dire à la fois les habits, le vêtement qu'il recouvre, le voile noir que portent les carmélites, mais également la pratique corporelle, la mortification, qui est une fermeture du corps. Le but de la mortification, c'est de ne plus ressentir de monde, de travailler spécifiquement chacun des sens pour se couper des rapports avec le monde extérieur. Tanner la peau également pour qu'elle résiste aux assauts du démon comme une cuirasse, hein, avec cette idée que le corps va devenir une enveloppe protectrice alors qu'à l'origine il était quelque chose de poreux par lequel le démon pouvait rentrer. Et vous savez que cette époque est la grande période des crises de possession. Alors on aboutit au paradoxe suivant, c'est parce qu'elle est la plus faible que la femme est la spécialiste des questions pénitentielles et indirectement du salut par la voie du corps. Derrière ça, il y a une question d'agency féminine, si on peut dire, c'est-à-dire que les hommes, le prêtre, dispose d'autres armes pour faire son salut et pour faire celui des autres, et notamment, il peut administrer les sacrements, il peut commenter la parole divine. Et ce qui reste aux femmes, c'est ce que Caroline Binoum appelle une piété somatique, hein, c'est l'ascèse et la mystique. Et ça, c'est au prix d'une complète transformation et inversion de son rôle dans le monde, qui est très explicite, la virginité et le refus de la fécondité charnelle, l'anémie engendrée par la pénitence qui crée en théorie une aménorrhée précoce, le jeûne, là où la femme exerce en théorie dans le monde une fonction nourricière, et une virilisation du corps qui est tout à fait explicite, c'est-à-dire que le but de la pénitence, c'est de produire un corps sec et chaud, alors que le corps de la femme, à l'origine, est froid et humide. Et ce thème de la femme virile, la mujer varonil, c'est quelque chose qui apparaît très nettement, notamment dans la description des vieilles religieuses qui se sont beaucoup mortifiées, et puis dans les exemples de sainteté dont elles sont supposées être les reflets, qui sont principalement les pères du désert. Alors, en revanche, il y a un flottement autorisé par l'institution sur ces types de pénitences, puisqu'on a le droit de faire ça, mais la licence que donne la supérieure n'est pas normée. Elle dit « oui, tu peux en faire plus », mais on ne sait pas concrètement où se situe la règle en la matière. Et c'est ici que les choses se compliquent, puisque, en définitive, ce qui empêche ces religieuses de sortir de leur angoisse et de leurs problématiques personnelles, ce sont les injonctions contradictoires auxquelles elles sont soumises par l'institution. Parce qu'on pourrait penser qu'il suffit de surenchérir en permanence, mais en réalité, ça ne marche pas. Parce qu'au-delà de la question problématique des limites physiques et psychologiques des religieuses, le couvent est une institution qui fonctionne sur des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qui fait un certain nombre d'appels et qui en même temps bride les religieuses sur ce qu'elles doivent faire. Qu'est-ce que vous avez concrètement face à cet appel pénitentiel? Vous avez d'abord un discours qui condamne les excès en matière de pénitence, hein, et dans ce cas-là, les excès sont décrits comme une manière de satisfaire les besoins du corps, et ce, particulièrement chez les femmes. La pénitence doit être mesurée, et c'est un discours qui est diffusé par une large partie de la littérature spirituelle, par des guides de prière, qui est diffusé par les confesseurs, et puis qui est diffusé par la prose de la fondatrice de l'ordre elle-même, Thérèse d'Avila.
À présent de la question des automutilations, donc ça joue assez bien avec l'exposé précédent, des automutilations en milieu asilaire au XIXe siècle, et je vais aborder ce sujet au travers d'un cas qui est celui d'Adèle Lozier, qui est une femme peintre, comme on le verra tout à l'heure, qui a été internée pendant 4 ans dans divers établissements privés parce que, en fait, si la question de la souffrance en général et de la violence dans le milieu asilaire est un thème sur lequel on a beaucoup de sources et qui a été assez abondamment travaillé, cet aspect-là, la question vraiment des automutilations, c'est très difficile d'en trouver des traces. Et en ce qui concerne les témoignages de patients, et notamment les témoignages de patients qui ont été publiés, en ce qui concerne l'espace français, pour l'instant, le témoignage d'Adèle est le seul que j'ai pu trouver où sont très explicitement exposées ce type de pratiques et où même elles sont revendiquées comme étant un moyen en fait de résister à une autre forme de souffrance qui est la souffrance de l'internement en elle-même. Donc je vais, avant d'entrer précisément et vous parler d'Adèle, vous donner quelques éléments de contexte qui permettent d'expliquer pourquoi justement cette question des automutilations est un élément dont il est assez difficile de tracer l'étendue ou même la forme dans le cadre du milieu asilaire au XIXe siècle. Alors, je suppose que tout le monde n'est pas familier avec l'histoire psychiatrique française. Donc, deux mots d'histoire rapide pour situer et pour mieux comprendre. Il faut savoir, enfin, l'idée principale, c'est que la psychiatrie française serait née à la fin du XVIIIe siècle autour d'une figure légendaire qui est celle de Philippe Pinel, dont on dit, et on continue d'ailleurs parfois de dire, qu'il aurait un jour libéré magistralement, donc on dit que c'est parfois 1792, 93, 94, enfin, peu importe, les fous et les folles de Bicêtre et de la Salpêtrière dans un grand geste révolutionnaire. On sait en fait, donc peu importe la date, puisque en fait ce geste mythique ne s'est jamais produit. Il n'y a pas eu de grand jour où Pinel a enlevé toutes les chaînes des aliénés. En fait, ça s'est fait petit à petit, et d'ailleurs initialement plus du fait de l'intervention du concierge que de Pinel lui-même. Mais en tout cas, ce qui est sûr par contre, c'est que Pinel, même s'il n'est certainement pas le premier à le dire, est en tout cas celui qui va faire en sorte que va être vraiment acceptée l'idée que la folie relève de la médecine, qu'elle est une maladie, et que donc les fous doivent être confiés uniquement aux soins des médecins. Et à peu près une quarantaine d'années après le fameux geste mythique de Pinel, donc précisément en 1838, va être adoptée une loi fondamentale pour l'histoire psychiatrique, mais moi j'ai envie de dire une loi fondamentale tout court pour l'histoire de France, l'histoire de l'enfermement en particulier, qui est la fameuse loi dite loi 38 ou loi des aliénés, qui ne sera pas modifiée avant 1990 et qui fait une obligation en fait pour chaque département français de se doter d'au moins un asile public pour prendre en charge ces aliénés indigents. Or, si avant on enfermait éventuellement les fous, les insensés, il est clair que c'est à partir de cette date que vraiment ça devient une pratique très large, massive, et qu'on peut parler, pour prendre autrement l'expression de Foucault, à mon avis d'un grand internement qui se produit à la suite de l'adoption de cette loi en France, et puis l'équivalent qui va être pris dans la majorité des pays occidentaux. Alors pour vous donner un ordre d'idée, en 1838, c'est à peine une dizaine de milliers de personnes qui sont internées pour cause de folie. Un siècle après, ce sera plus de 100 000 personnes, et il y a eu en France, avant la Seconde Guerre mondiale, entre 6 à 8 fois plus de personnes enfermées dans les asiles que dans les prisons de droit commun. Donc c'est absolument massif, et c'est quelque chose sur lequel d'ailleurs on sait encore relativement peu de choses. Donc l'expérience de l'internement pour cause de folie, qui avant était un fait rare, va devenir une expérience, je dirais, presque banale, en fait, au XIXe siècle. Chacun, plus ou moins, a quelqu'un dans sa famille qui est interné quelque part. Or, contrairement à ce qu'on a pu croire, cette massification, si je puis dire, utiliser ce mot très laid, de l'internement n'est pas passée du tout inaperçue, en fait. Le pouvoir psychiatrique ne s'est pas imposé comme ça dans un espèce de silence. Il a été, en fait, très critiqué, et ce, de ses débuts, puisque quand les asiles se développent, on n'est pas habitué précisément à ce qu'il y ait autant de personnes enfermées, et puis ça pose aussi des questions de coûts, aussi d'un point de vue très très basique. Et énormément de personnes vont s'interroger sur la présence massive de personnes dans ce qu'on appelle à l'époque les bastilles modernes. À quoi servent-elles? Est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Et pourquoi paye-t-on autant les aliénistes si quasiment personne ou presque ne guérit dans ces Bastilles. Et là, on renverse en fait l'équation pinélienne, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens font remarquer ce paradoxe, qui est que les aliénistes prétendent libérer les fous, mais qu'en fait, ils les enferment massivement. Donc il y a quand même là quelque chose qui pose question. Or, justement, dans ce contexte de critique, la question de l'automutilation n'est en fait revendicable ni du côté de ceux qui défendent la médecine mentale, comme on l'appelle à l'époque, ni du côté de ceux qui, en fait, la critiquent. Parce que du côté des médecins, quand justement on défend l'idée que l'asile est un espace bel et bien de soins, un espace thérapeutique, une machine à guérir, comme le disait Étienne Esquirol, on ne peut pas dire dans ce cas-là qu'en fait les aliénés, une fois enfermés, s'automutilent et attirer l'attention sur ce type de pratique, puisque ça contribuerait à défaire justement cet argument que l'asile est un espace de lieu, un espace de guérison. Et inversement, du côté des anti-aliénistes, et notamment des patients qui critiquent, parce qu'il y en a eu, en fait, qui ont pu publier de l'intérieur et de l'extérieur de l'asile, du côté des patients, il n'est pas possible non plus de revendiquer entre guillemets l'automutilation, puisque c'est admettre qu'on a un problème et c'est admettre que la violence peut venir de soi et non pas de l'extérieur. Parce que finalement, si l'on parle de violence et quand on parle de violence et de souffrance à propos de l'asile au XIXe siècle, c'est toujours pour évoquer une violence qui est subie de la part d'un intervenant extérieur. Donc du côté des aliénés, bien entendu, il s'agit de mettre en valeur les maltraitances et les sévices qui sont subis de la part qui sont infligés par les médecins et par les gardiens. Donc je vous ai mis un exemple célèbre, puisque André Gide est donc un célèbre caricaturiste et un peintre qui a été enfermé lui-même en 1882 et qui a finalement été réinterné et décédé à l'asile de Charenton, et qui s'est mis en scène, comme vous pouvez le voir, et montrant la souffrance de l'interné qui est en camisolé, là, comme vous pouvez vous en apercevoir. Mais inversement, du côté des médecins, on a aussi une revendication, si je puis dire, de face à ça, en fait, face à ces critiques, des médecins qui se présentent comme étant eux-mêmes aussi des martyrs, et le terme de martyr est employé aussi bien du côté des aliénistes que des aliénés, qui se font agresser, voire assassiner par leurs patients, avec cette idée que l'asile est en soi un espace de violence extrême, dans un sens ou dans l'autre. Et quand j'utilise le mot martyr, il constitue, que ce soit chez les aliénistes, d'ailleurs dans la revue de l'époque, et chez les aliénés, des listes de martyrs, des martyrologes, en reprenant ici, donc on voit très bien la filiation avec la rhétorique religieuse. Donc vers 1840-41, je ne connais pas la date précise, Adèle décide d'attenter à ses jours de diverses manières, comme vous pouvez le voir. Alors, elle échoue. En revanche, par contre, elle réussit à se couper le bout d'un sein. Donc, suite à ces divers épisodes qui, évidemment, font scandale dans le cadre d'une famille aisée, riche, et qui a visiblement des liens assez clairs avec les élites, elle est internée dans diverses maisons de santé privées. Donc, là aussi, on est dans un cas particulier. Ce n'est donc pas le réseau de l'asile public, mais bien celui des cliniques privées. Alors, d'abord, dans la célèbre clinique du docteur Leray, à Paris, puis ensuite à Lyon, ensuite à Marseille, et semblerait-il qu'après elle rentre à Paris. Tout ça sur une période d'internement discontinue sur 4 ans. Au final, sa mère finit par sortir sa fille de ce circuit contre l'autorité paternelle, et Adèle décide à ce moment-là d'arrêter d'essayer de se tuer. Il est plus que probable que si Adèle s'était trouvée dans le circuit asileur public, elle n'en serait évidemment jamais sortie. Suite à cet épisode, je retrouve sa trace au moins en 1848 où elle écrit encore un pamphlet politique, et après je ne sais pas ce qu'elle devient. Alors il faut savoir que pendant cette période d'internement de 4 ans, Adèle aura essayé de se tuer au moins une dizaine de reprises, en s'empoisonnant donc d'abord une première fois, puis ensuite en tentant principalement de se jeter soit du haut de fenêtres, soit dans des puits, etc. Elle aussi ingère tout un certain nombre de choses non comestibles, et en revanche, par contre, elle refuse de se nourrir normalement, donc elle perd énormément de poids comme... Je devins comme un cadavre. Elle se brûle au tison sur le front également. Elle donc se coupe le sein, comme je l'ai dit, et bon, etc., etc. Et au total, elle gardera de son internement une boîterie, puisque donc elle s'est définitivement estropiée quand elle tente lors de sauter d'une fenêtre. Et elle a un sein donc mutilé, ainsi que très probablement une marque au front, gardant ainsi, et là je reprends l'expression d'Erving Goffman qui me semble particulièrement adaptée dans le cas d'Adèle, des stigmates à vie de son internement. Alors il est clair que si on reprend le raisonnement médical de l'époque, Adèle est indubitablement aliénée, car même si le terme d'automutilation n'existe pas, il n'est pas en usage au moment, dans les années 1840, au moment où elle est internée, on considère déjà dans le jargon aliéniste de l'époque que ce qu'on appelle alors plutôt les attentats contre soi-même sont un signe indubitable d'aliénation mentale. C'est d'ailleurs comme ça qu'on lit à rebours toute l'histoire ecclésiastique, en considérant que toutes ces femmes dont on a parlé précédemment étaient des hystériques, des démentes, etc., etc. Parce que si les aliénistes ne s'attardent pas sur l'extension des pratiques automutilatrices dans l'asile, par contre ils sont très disert sur ce qui se passe hors asile et qui d'ailleurs entraîne un internement. Et d'ailleurs le terme d'automutilation qui va commencer à se répandre à partir des années 1860, d'abord en Grande-Bretagne surtout, et ensuite en France, et puis ensuite en Allemagne plus tard, va connaître évidemment un succès extrêmement grand jusqu'à présent. Mais Adèle ne voit pas les choses comme ça, donc j'ai mis ici une longue citation, et bien au contraire, en fait, elle va opposer cette souffrance physique comme étant au contraire une marque de raison, une marque de volonté et une marque de résistance contre la vraie souffrance, qui est donc la souffrance de l'enfermement, et plus précisément qui est la souffrance de se voir faire imposer une volonté qui n'est pas la sienne, donc la volonté paternelle, en fait, et la volonté des médecins. Car si initialement Adèle veut se détruire pour une raison intime qu'elle ne souhaite pas révéler, ensuite, dans le milieu asilaire, ces mutilations prennent un autre sens. Car pour Adèle, comme vous pouvez le voir, se détruire, comme elle le dit, se mutiler, sont en fait des formes de reprise du contrôle de son corps contre l'autorité paternelle, contre l'autorité des médecins. Elle refuse de manger ce qu'on lui impose parce qu'elle refuse de vivre dans l'environnement qu'on lui impose. En fait, elle fait une grève de la faim, même si ce n'est pas le terme, c'est un terme anachronique. Il y a aussi clairement une fonction métaphorique. Elle n'en gère pas n'importe quoi, elle en gère notamment des clés. Elle tente de s'échapper en sautant par la fenêtre et elle reprend très clairement là-dedans des images en arrière-plan, et comme vous l'avez vu, elle a toute une production picturale pour l'église, des images de martyrs et de saintes, mais aussi des images, donc j'aurais pu mettre précédemment, j'aurais pu mettre plutôt une Amazone aussi, puisque comme vous l'avez vu, elle dit s'inspirer par exemple de Porci ou Porcia si vous préférez, de Rome. Et ce n'est pas n'importe quelle femme, donc c'est la fille de Caton qui dit que c'était la femme de Brutus avec qui elle s'est suicidée, enfin bon, bref, voilà. Mais elle fait aussi référence, me semble-t-il, implicitement à un célèbre tableau qui a été peint par une femme peintre, et ce n'est pas un hasard, puisqu'Adèle est elle-même une femme peintre. Donc Elisaveta Sirani, que vous voyez ici, qui est décédée à 27 ans et dont on a pensé longtemps qu'elle avait été peut-être assassinée par son propre père. Donc là encore, toute une mise en valeur et un jeu sur les images chez Adèle, d'une relation père-fille, et l'idée de la mutilation et du suicide, en fait, est donc très explicitement, en travers de toute cette sorte d'intertexte visuel qu'elle met en place dans son texte, comme une façon de se situer dans une tradition féminine de résistance par la souffrance physique à l'oppression, entre guillemets, masculine. Et d'ailleurs, en fait, il me semble assez clair que là-dedans, Adèle devient elle-même un sujet de peinture. Et d'ailleurs, elle essaye de se suicider en avalant du bleu d'indigo. Donc avec tout un rapport à l'image, entre le texte, l'image et les images qui sont dans l'intertexte du texte, qui est très frappant dans son témoignage. Sur les quelques illustrations qu'on peut trouver éventuellement d'automutilation, donc là vous avez quand même une photographie qui vient, mais c'est plus tardif, dans la revue de psychiatrie, mais on montre ce type d'automutilation, là il s'agit d'une démente, donc il est explicitement dit dans le texte qu'il n'y a pas de sens qu'elle se mutile sans en avoir la sensation et que donc la douleur est absente, donc une sorte de prise à rebours, c'est-à-dire que ces aliénés s'automutilent mais ça n'a pas de sens puisque dans le fond ils ne ressentent pas de peine. Vous avez une représentation d'une femme par un... Enfin, c'est un dessinateur, mais c'est dans le cadre d'un témoignage, cette fois-ci, d'homme. Vous voyez comment là, on a une toute autre représentation du corps de la femme, et avec toujours aussi cette question du sein qui revient un peu comme une obsession, et donc sur laquelle Adèle Lozier jouait très très clairement. Et puis, alors c'est pas exactement une automutilation, mais c'est un rêve de mutilation qui est un célèbre fou littéraire, Paul Ingagne, qui d'ailleurs, c'est intéressant, a été caricaturé par André Gide, qui lui-même plus tard finira à l'Asie, donc tout ça aussi se croise, qui rêvait d'être dévoré par... Et il offrait son corps à la dévoration avec tout un discours sur la philoanthropophagie. Donc des représentations un peu plus tardives d'automutilation pour voir qu'il y a vraiment une très longue continuité. Donc un témoignage récent de malade qui a été interné et qui a représenté ainsi ses désirs et apparemment, même si elle ne dit pas de réelle automutilation dans le cadre d'une... institution britannique, et pour montrer que ça excède très, très largement cette photo de soldats qui s'automutilent pendant la Première Guerre mondiale aussi en Grande-Bretagne, avec toute la question de savoir et qui est posée explicitement par les autorités, s'il s'agit d'une automutilation par rébellion et pour se soustraire donc à la guerre, s'il s'agit d'un cas de folie ou s'il s'agit de quelque chose qui est causé en fait par la tranchée ou s'il s'agit d'un cas d'anesthésie, les soldats ne se rendant plus compte des souffrances qu'ils endurent. Enfin, sur la question, et je vais conclure sur cette question, il me semble que l'histoire d'Adèle Lozier, c'est une histoire qui révèle à la fois la pesanteur et l'horreur de l'expérience asilaire, parce que, évidemment, pour en revenir, cela dit, c'est efficace, c'est-à-dire qu'elle essaie de se tuer pendant 4 ans, elle s'estropie, elle devient de plus en plus malade, et c'est aussi la raison pour laquelle sa mère la retire. Donc à la fois une expérience qui traduit l'horreur de l'enfermement, mais des modes de résistance, certes paradoxaux, qui sont ce qu'ils sont, mais qui dans certains cas peuvent aboutir à avoir des avantages, pour reprendre l'expression qui a été utilisée précédemment. Et puis sur une très très longue durée, je pense que la question qui se pose dans ces rapports entre automutilation, enfermement et sens qu'on leur donne et art, donc une très très longue continuité d'avant d'ailleurs et cette période jusqu'à aujourd'hui, entre la question de savoir s'il s'agit d'actes pathologiques qui rentrent dans le champ de la psychiatrie ou d'actes, une forme de résistance et d'auto-appropriation de son corps, et voir un signe artistique. Donc évidemment la représentation de Van Gogh, peut-être que Adèle Lozier s'est peinte en Amazone avec le sein coupé, ce ne serait pas impossible. Et puis donc l'actionnisme viennois qui a beaucoup joué sur cette question de l'automutilation. Et Gina Panet qui, elle, s'automutile réellement, si je puis dire, comme on peut le voir là, avec notamment la sortie du sang, sinon aussi elle se coupe le ventre, et qui revendique ça comme étant un signe justement féminin et féministe, un signe artistique de réappropriation du corps. Donc il me semble que là, il y a une très très longue continuité et que c'est aussi une spécificité liée à une question de genre. Et là, je pense qu'on se situe assez bien dans la continuité de l'exposé précédent. Voilà, merci.
Donc en fait, la prison, il y a plein de choses à en dire. En fait, tout d'abord, je vais évoquer les causes de la souffrance en prison. En premier lieu, il convient de parler de l'enfermement en soi, bien entendu. L'enfermement par tout ce qu'il y a de privation, coupure avec la famille, suppression de toute intimité, enfin bon, toutes sortes de choses. Il y a la durée, par exemple, il est assez intéressant dans mon cas. De voir que le jour où je suis sorti de prison, j'avais plus vécu en prison que je n'avais vécu librement. Je suis sorti à 43 ans, j'avais donc passé 23 ans en prison et 20 en liberté. Aujourd'hui, je suis à 35 ans de liberté. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Voilà. La deuxième cause de la prison, de la souffrance en prison, pour moi, c'est l'attitude du personnel. Je sais que c'est un point polémique. Quand j'en parle, les gens ne me croient pas. Parfois, j'exagère, enfin, or que je n'en ai rien à faire, puisque je ne suis plus concerné par la prison. Attitude du personnel, donc, il y a la violence physique les tabassages. Je me suis fait tabasser au moins deux fois, je crois même trois fois. Bon, toujours pour de bonnes raisons, bien entendu. Il y a l'avilissement légal du détenu. Alors l'avilissement légal, je parle de la fouille. Je sais pas, j'ai jamais fait le compte, j'ai dû me faire violer, je pense, par les gardiens de prison 1000, 2000, 3000, 4000 fois. Pourquoi je dis violer ? Je parle pas de sexe, bien sûr. Et donc ce n'est pas du viol, puisque la définition juridique du viol, c'est une introduction sexuelle. Mais si je vous prends, vous, chacun, individuellement, et que je vous oblige à vous déshabiller là, maintenant, devant d'autres, je pense que vous le ressentirez comme un viol, même si ce n'en est pas un. Et donc ce viol est légal. Il y a le mitard. Le mitard, c'est la mise au cachot. Ça me fait un peu penser, tout à l'heure, quand on parlait de couvents, de choses comme ça. En fait, le cachot, c'est l'endroit où on fait subir encore pire qu'ailleurs, dans la prison, toutes sortes de choses aux détenus pour l'amener à contrition, pour qu'il demande pardon à l'administration, pour que... J'ai vu des détenus supplier. J'ai eu la chance de jamais m'abaisser à ça. Mais bon, voilà. Et cela, c'est légal. Après, il y a les choses, l'avilissement illégal. Alors, l'avilissement illégal, c'est par exemple un truc gentil dans une fouille de votre cellule pendant que vous n'êtes pas là. Quand vous rentrez, vous retrouvez la photo des gens que vous aimez par terre avec des marques de godillots dessus. Ça, c'est gentil. Après, il y a la fouille qui n'est plus légale, enfin qui continue à l'être, mais qui est totalement abusive. Il m'est arrivé d'être fouillé par jour 5, 6, 7 fois en restant dans ma cellule. Ça rimait à quoi ? Ce n'était même plus utile qu'on vous fouille une fois. Donc voilà, la violence du personnel. Alors on nous parle toujours dans les médias de la violence entre les détenus. Bien sûr, elle existe. Moi, en 23 ans de prison, je me suis battu trois fois, je crois. Et n'étant pas balèze, à chaque fois, j'ai eu le dessous. Et donc, mais cette violence-là est accessoire quelque part, car une bagarre entre détenus, écoutez, vous mettez plusieurs centaines de prisonniers dans un espace clos pendant des années et des années. Les gens se croisent dans des couloirs qui, dans beaucoup de prisons, sont très minces. C'est normal qu'à un moment donné, ça explose. Et c'est une violence d'égal à égal. Alors que la violence des gardiens, ce sont des gens qui sont en uniforme, qui sont détenteurs de l'autorité et qui normalement devraient respecter la loi et qui ne la respectent donc pas, car il est illégal de frapper un détenu, même si dans la plupart des cas de détenus qui sont morts en prison assassinés par les gardiens, je n'y peux rien, ce n'est pas de... il y a le cas Mirval, je ne parle pas aujourd'hui, j'en sais rien, ça ne me regarde plus. J'ai souvenir du cas Mirval il y a 20 ans à peu près. Il est mort d'une crise cardiaque dans l'ascenseur qui le montait au mitard de Fleury-Mérogis. Et il est mort avec plusieurs côtes brisées. Mais évidemment, son cœur s'est arrêté à un moment donné. Un prêtre de Fleury et des enseignants qui intervenaient, des enseignants donc qui viennent de l'extérieur, avaient entendu des choses, ont porté témoignage. Ils ont été condamnés en justice pour diffamation vis-à-vis du personnel. Excusez-moi, je ne m'y attendais pas, je suis en train de... Et les trois gardiens impliqués là-dedans n'ont jamais eu la moindre sanction. J'en ai connu un jour, des années après, qui était gardien-chef, et... qui, je ne sais pas pourquoi, s'est mis à avoir une conversation avec moi sur les étrangers, conversation raciste, tout. Il avait l'air de croire que je serais d'accord avec lui. En fait, il continuait à sévir en toute impunité. Alors, les effets de cette violence, eh bien, ma foi, de cette souffrance, c'est le repli sur soi, dans certains cas. J'ai vu des détenus qui se coupaient complètement de tout, toute relation avec leur famille. Ils ne voulaient plus que personne vienne les voir. Ils n'arrivaient plus à montrer ce qu'ils subissaient. D'autres, la résignation. Alors la résignation, c'est terrible parce que ça s'accompagne de servilité, ça s'accompagne d'assistance. Et la plupart des détenus que j'ai vus se soumettre à ce point-là deviennent socialement totalement irrécupérables parce que le jour où ils sortent, ils sont incapables d'être autonomes. Vous en parliez, pardon, l'automutilation. Alors l'automutilation, elle est très fréquente en prison. Les gens avalent des fourchettes. Moi, j'y ai jamais réussi. Je sais pas comment ils font. Des cuillères, des choses comme ça. Se coupent les doigts, se taillent les veines. J'ai souvenir d'une prison où il y avait pas mal de coupages de doigts. Et le médecin de l'hôpital, c'était à Moulins, le médecin de l'hôpital avait montré au bout d'un moment à un détenu qui allait à l'hôpital pour se faire pas recoudre le doigt, mais penser, soigner. Et il lui a montré la collection de doigts de détenus qu'il avait. Il était tout content, très fier de sa collection de petits bocaux avec des doigts de détenus dedans. Et puis le... La dernière automutilation qu'il y ait, mon frère l'a pratiquée, c'est le suicide. Mon frère était en prison aussi. C'est le suicide. Façon de dire, arrêtez, hein, moi, c'est fini, je joue plus avec vous. Je m'arrête là. Il y a bien sûr la révolte. Alors la révolte, elle peut passer par plusieurs choses. Le refus. Alors on refuse de toutes sortes de façons. Par exemple, à Fleury-Mérogis, ce sont de très larges couloirs. Les détenus doivent marcher au milieu. Moi, je marchais exprès sur le côté. Donc les gardiens me tombaient continuellement dessus et je refusais de les écouter. Ce genre de refus, on peut le faire. On peut le faire quand... Bon, ça dépend qui on est. Le refus, ça peut être ce que je faisais, ce que j'ai fait au Mitard. Au Mitard, à une époque, on n'avait rien du tout. Et puis en 81, quand les socialistes ont gagné, je suis de gauche, hein, je vais avoir l'air de les critiquer, quand les socialistes ont gagné les élections, ils ont fait quelques petites réformettes. Entre autres, ils donnaient des draps aux détenus au Mitard, la nuit, pas le jour. Le jour, on n'a pas le droit au matelas, on n'a le droit à rien. Et donc moi, je ne prenais pas les draps. Je refusais les draps. Un jour, un directeur m'a demandé pourquoi. J'allais pas lui expliquer ce que je vais vous dire après. Je lui ai dit, écoutez, je tiens pas à ce qu'on me retrouve pendu dans ma cellule. Il m'a regardé interloqué. La réalité, c'était quoi? C'est qu'on me mettait dans des conditions telles. On me retirait tout. On me retirait tous les droits, même. Il n'y a plus rien. On n'a plus de droits, on n'a plus d'objets, on n'a plus de choses. Eh bien, moi, je refusais mes draps en leur disant, vous voyez, vous me retirez tout ça. Eh bien, moi, je suis capable de refuser encore plus. Et donc, en fait, ce n'est pas le plaisir de se faire une souffrance. Vous parliez de réappropriation du corps. C'est une façon de se réapproprier soi, de dire... Vous m'avez compris, j'ai vu à plusieurs... le surajout de la répression, finalement, face à ce qu'on nous fait. Voilà. Alors, il y aurait eu plein d'autres choses à vous parler. Mais s'il y a une chose sur laquelle je veux... Déjà, vous savez, madame, la photo de cette femme que l'on gaffe comme une oie, en fait, dans les prisons françaises, on le fait toujours. Hein, quand un détenu fait la grève de la faim, on le gaffe comme une oie. Moi, j'ai essayé un jour d'expliquer... j'ai fait la grève de la faim, j'ai fait la grève de la soif. Grève de la soif pendant 15 jours, ça surprend tout le temps les gens qui croient qu'on ne peut pas vivre. Bah si, bien sûr qu'on peut rester 15 jours sans boire. Ça abîme un petit peu le corps. Je me suis ouvert les veines. Pourquoi? Ah, pas pour me suicider, moi. J'ai eu envie quand j'avais 20 ans, mais quand je l'ai fait, non, c'était un acte de combat, de guerre, peut-être. Nous étions trois au quartier d'isolement. Nous avions prévenu qu'il fallait nous sortir de là, que c'était inadmissible. En fait, nous avions protesté parce qu'un détenu avait disparu de la détention et il y avait du sang un peu partout dans la détention. Enfin, un peu partout, sur le chemin de sa cellule pour sortir du quartier de détention. Donc on voulait savoir ce qui lui était arrivé. Donc on s'est ouvert les veines, tous les trois, le même jour, en parlant par les fenêtres, on s'est interpellés. Les gardiens riaient, bien sûr. Le vétérinaire, réellement, ils nous ont envoyé un vétérinaire. Ils n'avaient pas de médecin sous la main ce jour-là pour nous recoudre. Riaient aussi, et on leur a dit « riez tant que vous voulez. Nous allons nous ouvrir les veines toutes les semaines, le même jour. Et en revanche, un jour, nous arrêterons de nous ouvrir les veines. » Et là, vous arrêterez de rire, car c'est sur vous que l'on sautera et c'est vous que l'on ouvrira. On a écrit tous les deux, trois de notre côté une lettre au ministère de la Justice en informant le ministère de la Justice de notre démarche. Donc on s'est ouvert les veines pendant plusieurs semaines et puis ils riaient tout le temps. Et donc un jour, on leur a dit, arrivé au jour de l'ouverture des veines, chacun de notre côté, on leur a dit, cette semaine, on ne s'ouvre pas les veines. Et la semaine prochaine, c'est vous. Et on s'est donné un battement d'une semaine, quand même. Et on a écrit au ministère. On savait bien que... Attention, s'ils ne nous avaient pas sortis du quartier, on aurait été obligés d'aller... Parce que quand on lance une menace, on ne peut pas ne pas faire. Donc, voilà. Bon. Dernier point, la similarité, moi, m'a toujours sidéré entre les prisons, les hôpitaux psychiatriques. Ma mère a fait beaucoup de... Ma mère, à l'âge de 20 ans, a fait des dépressions. Elle en a fait toute sa vie. Toute mon enfance, je suis allé la voir épisodiquement dans des lieux de ce genre. Et même les hôpitaux... en fait, ma mère, à la fin de sa vie... était très, très, très malade d'un cancer. Elle était dans un bâtiment qui était clos parce qu'il y avait avec elle à l'hôpital pendant une semaine à peu près, parce qu'il n'y avait plus de place pour les gens relativement en fin de vie. Et il l'avait mis. Et j'avais vu un gardien, puisque les portes étaient fermées à clé, jouer avec son trousseau comme ça. Les matons jouent avec leur trousseau de clé. S'il y a un comportement comme ça, je trouve, de la part des gens qui doivent vous empêcher de sortir, qui est sidérant, et la souffrance des, j'allais dire des détenus en hôpital ou en clinique psychiatrique, je trouve il y a de très grandes similarités avec la prison. Oserais-je rajouter la prison des vieux, là, les maisons de retraite? J'ai dit à ma femme, surtout, tue-moi, donne-moi les moyens de me tuer le jour où ça n'ira pas, mais ne me remets pas pour la fin de ma vie, elle est plus jeune que moi, pour la fin de ma vie, ne me remets pas dans une prison pour vieux, j'en veux pas.
Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous remercie déjà pour l'invitation, non pas parce que les portes d'un lieu aussi important que le vôtre m'est ouvert, mais parce que vous m'avez enrichi ce matin au travers de vos travaux et de ce que vous avez dit donc autour de ces micros. Vous m'avez enrichi. Il y a 30 ans que je suis dans le milieu carcéral en France. J'ai vécu, comme tu l'as précisé, charnellement la prison pendant 17 ans. Et puis maintenant, depuis 13 ans que je suis un homme relativement libre, eh bien, j'ai eu une action en permanence autour, dans la prison. J'ai présidé l'Observatoire international des prisons pendant 5 ans. J'ai fait des travaux pour Martin Hirsch, lorsqu'il était au gouvernement, sur la question de la pauvreté en prison. Et au tout début, ça me ramène à la thématique de la journée, j'étais le chef du département prison à la Croix-Rouge française, au service centraux. La Croix-Rouge française, son leitmotiv, c'était « ne tolérant aucune souffrance ». Et je disais aux gens que je formais au niveau national de la Croix-Rouge, je leur disais, s'il y a un endroit dans notre société dans laquelle est en compact, en permanence, à tout instant, de la souffrance, c'est le milieu carcéral. J'ai longtemps cru à ça, que c'était le summum de la souffrance, on l'a trouvé en milieu carcéral. Et puis, dans des débats, j'ai eu à deux reprises deux dames qui sont venues et qui m'ont dit à la fin, « Monsieur Mouesca, vous ne connaissez pas la psychiatrie. Vous ne connaissez pas la psychiatrie. » Et elle disait, « Nous avons connu les deux, le système carcéral, la psychiatrie. Je puis vous assurer que si vous dénoncez l'atteinte à la dignité de la personne détenue, la personne qui est dans un centre psychiatrique, eh bien, elle est encore en deçà au niveau de l'atteinte à la dignité. » Et puis, il y a quelques mois de ça, j'ai rencontré aussi des personnes qui travaillent pour M. Delarue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui s'occupe certes de la prison, des atteintes à la dignité et du respect du droit, etc., mais aussi qui est en charge de suivi des autres lieux de privation de liberté, dont les centres psychiatriques. Et là, j'ai rencontré des gens donc, qui sont des contrôleurs qui m'ont dit effectivement, nous avons découvert un lieu qui est encore infrahumain, bien des fois, et qui est donc la psychiatrie en France. Tout ça pour vous dire que le lien, hein, alors je ne reviendrai pas sur la question de l'enfermement monastique, bien que ça c'est tout à fait personnel, et je me demande même si dans un pays laïque je dois le dire, mais je suis croyant, donc forcément la question de l'enfermement monastique dont vous avez témoigné, c'est quelque chose aussi qui me parle. Et donc l'atteinte, enfin la souffrance, la prison, je vous disais au début, la prison, s'il fallait trouver un synonyme, c'est la souffrance. Et aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai présidé l'OIP, je trouve que en ce début de 21e siècle, il n'est pas acceptable, il n'est pas supportable que nous ayons encore dans notre société un outil qu'on appelle prison. Parce que les rapports ne manquent pas, les études ne manquent pas, qui démontrent l'effet désocialisant de la prison, et entre autres, parce que bien évidemment, le prisonnier, la prisonnière, mais aussi le personnel, hein, je parle aussi du personnel d'administration pénitentiaire, les intervenants sont dans un jus de souffrance permanente, une souffrance partagée. Et je trouve qu'il n'est pas acceptable, par rapport à notre niveau de civilisation, qu'on ait encore de tels outils que je dis barbares. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, là aussi, Monsieur Mouesca, arrêtez de parler de barbarie carcérale. Parce qu'on m'a souvent dit, la barbarie, ça nous amène à la Shoah, ça nous amène à des moments très précis de notre histoire. Bien évidemment que je lis à cette histoire-là ce qualificatif de barbarie, mais je dis, lorsque j'utilise le mot barbarie, c'est bien évidemment en opposition à la notion de civilisation. Et la prison n'est pas un outil civilisé, je le maintiens. Il ne se passe pas une semaine aujourd'hui où à l'OIP, on ne reçoit pas des courriers, de témoignages directs de prisonniers, mais aussi directs de familles, mais aussi de personnel ou de syndicats d'administration pénitentiaire qui témoignent que, bien évidemment, encore la prison en France est un haut lieu de souffrance, un lieu dans lequel il y a des atteintes aux droits des personnes détenues et parfois encore plus graves, des atteintes à la dignité de la personne détenue. Nous sommes dans un état de droit. J'ai toujours considéré que, quoi qu'aient fait les personnes, quelles qu'aient été les raisons pour lesquelles on a enfermé les gens derrière les barreaux, ils restent dans un état de droit, des sujets de droit. Et aujourd'hui, je suis ici pour dire haut et clair que beaucoup de personnes détenues ne sont pas respectées dans leurs droits et souvent sont atteintes dans leur dignité. S'il était dans la culture des prisonniers en France d'ester en justice, de faire des recours auprès des tribunaux, je puis vous assurer, et je vous le dis comme je le dis à l'ensemble des directeurs de prison lorsque j'y rencontre ou au ministère de la Justice, il ne se passerait pas un jour où l'ensemble des directeurs de prison ne serait pas condamné par les tribunaux de la République, parce qu'il ne se passe pas un jour où il n'y ait pas des atteintes à la dignité humaine ou des atteintes aux droits des personnes détenues dans les prisons françaises qui sont, je le rappelle, 191 sur le territoire français. Donc la souffrance, les éléments générateurs de souffrance, il en a parlé, hein, la question des outils, on a parlé du mitard, de la mise à l'isolement, ce qu'on appelle le tourisme carcéral, c'est-à-dire de bouger de prison en prison des gens assez fréquemment au nom d'une pseudo-dangerosité. Je suis là aussi pour dire que la dangerosité est une notion très relative, hein, vous êtes des chercheurs, vous êtes des scientifiques, vous savez ce que j'entends par là, mais je peux aussi vous dire que la prison rend dangereux des gens qui sont rentrés à allez, j'exagère un petit peu, mais comme des moutons en prison. Et inversement, j'ai rencontré des gens qui sont rentrés avec l'étiquette de dangereux en prison et qui, en prison, étaient de véritables moutons. Tout ça pour vous dire que le regard que l'on doit porter sur la réalité carcérale aujourd'hui devrait s'inspirer beaucoup de travaux. Vous voyez, je vois que ce que nous disons aujourd'hui est enregistré. Je puis vous assurer que ce que vous avez dit ce matin... la France aurait beaucoup à gagner si, à l'École nationale de la magistrature, dans l'école de formation des avocats, mais aussi à l'Assemblée nationale, à ceux qui sont en train de créer, qui dans quelques jours vont faire une nouvelle loi de politique pénale, si ces gens-là vous entendaient. Parce qu'il y a un moment où il faut retenir les leçons de l'histoire. Et ces gens qui décident aujourd'hui, mais qui décident aussi de l'avenir proche ou lointain, auraient beaucoup à gagner, et de façon générale, la nation aurait à gagner, à entendre, j'allais dire, ce que vous avez rapporté sur l'histoire plus ou moins récente de ce pays par rapport à l'enfermement en milieu psychiatrique ou en milieu carcéral. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vous passe la parole.
Moi, j'ai fait de la prison entre 71 et 72. Et c'était une prison politique. J'étais à la gauche prolétarienne, j'étais maoïste. Et je me suis fait arrêter parce qu'il y avait eu une bagarre avec les flics. Un flic a eu deux bras cassés, un autre une égratignure. On a été trois à être condamnés à 15 mois de prison. Il y a eu un copain algérien à 6 mois, etc. Très exactement, je suis rentré en prison à 19 ans, j'en suis sorti à 21. C'est-à-dire que j'ai passé exactement mes 20 ans en prison. Et je ne laisserai personne dire que 20 ans... Alors j'ai passé 2 mois à peu près en cellule collective à Montbéliard. J'étais dans le Doubs. Et ensuite, j'ai fait le reste de la prison à Besançon. Juste pour dire que j'ai passé 10 mois à l'isolement, hein, sur l'ensemble. La caractéristique par rapport à la souffrance dans l'enfermement, c'est que, comme j'étais un prisonnier politique, mais Gabriel aussi l'était, je ne sais pas s'il a la même expérience que moi, le jeu, c'était de se défendre contre la souffrance. C'était de ne pas souffrir, puisqu'on était mis en prison par l'ennemi. Donc si on souffrait, ça ne faisait que faire plaisir à l'ennemi. Donc le jeu, c'était de ne pas souffrir, ce qui, bien entendu, en fait, provoquait une souffrance bien supérieure, dont je ne me suis rendu compte que plus d'un an après ma sortie de prison. Cette espèce de manière de refuser la perception de ce que pouvait être la prison. Mais en prison même, je sentais, je percevais là... parce que, bon, j'ai passé une semaine, une partie non à l'isolement, une partie à l'isolement, mais même à l'isolement, j'étais en relation avec d'autres détenus, puisque j'avais été isolé dans une partie de division qui était vide, parce qu'elle était en face... de la division des femmes et pour empêcher donc les détenus de parler avec des femmes, ce qui me permettait moi-même de parler avec des femmes et en particulier de répliquer à leur discours de souffrance et d'essayer de retourner leur discours de souffrance, par exemple par des assauts de chansons où je faisais des chansons qui étaient des chansons plutôt joyeuses en écho à leurs chansons douloureuses. Alors, souffrance tout de même, souffrance du redoublement de l'isolement qu'est la prison, de toute façon, en un isolement à l'intérieur de la prison, souffrance par le mitard dont Philippe a parlé un instant, souffrance, une chose que j'ai très fortement perçue, alors, pour les raisons de la souffrance, et de quoi souffre-t-on, je ne reprends pas l'ensemble de ce qui a été dit, mais une raison que j'ai perçue au moment même où j'étais en prison, c'est la privation de l'action. C'est-à-dire qu'on n'est pas en contact avec la vie, on est dans une répétition incessante, quotidienne, des mêmes gestes et des mêmes actes. Et du coup, on est dans un jus, dans un repli où on est complètement replié sur soi. Et c'est très intéressant du point de vue justement de ce qu'est l'action. Et une des raisons pour lesquelles j'ai accepté la proposition de Sandro de parler, c'est pour réfléchir aussi à ce que ça a pu être pour moi la prison dans mon expérience d'historien. Or, je suis un historien justement de l'action et de la pratique, et je pense que ça tient beaucoup à cette réflexion que j'ai eue en prison sur l'effet de la prison sur les prisonniers, c'est-à-dire le fait de ne pas être dans une action qui soit ouverte au monde, ouverte aux sollicitations et au débordement du monde, mais dans la réglementation, dans une violence quotidienne, etc. C'est à la fois une cause de violence et une cause aussi de fabrique de soi qui est très particulière. Et comme disait un psychologue, d'ailleurs, d'une certaine façon, on est conduit, on est poussé à l'extrême. Ça pousse, dit un psychologue, à l'extrême les attitudes et les comportements. Et je pense que c'est une des conditions de la prison. Autre chose, et dernier aspect, je vais en avoir pour deux minutes, autre cause de souffrance qui est la famille, et la première visite de mes parents, je voyais ma mère pleurer, et ce pleur, je l'ai interprété, sans savoir si c'était vrai, comme un écho pour ma mère du fait qu'elle-même avait été en prison, puisqu'elle a été arrêtée en 1942. Elle est passée par le dépôt, par la santé, par Romainville, et par Auschwitz, et par Ravensbrück, et par Mauthausen. Donc, il y avait aussi, dans ma résistance à la souffrance, cet écho de cet autre de Shoah, qui est bien toujours présente là, de cette manière, mais elle peut l'être de beaucoup d'autres, dans la prison. Et enfin, je finirai sur quelques mots que m'ont suggéré la relecture, la lecture que j'ai faite des lettres que j'ai envoyées à mes parents depuis la prison. Mes parents sont morts, donc j'ai hérité, j'ai vu les lettres. À l'occasion de cette journée, j'ai lu ces lettres. Et c'est aussi une manière de réfléchir à ce que je fais comme histoire aujourd'hui. Parce que ce que j'y ai vu, c'est une manière d'accompagner mes propres parents dans leur propre souffrance. C'est-à-dire que je ne suis sans cesse, dans mes lettres, à parler de ce qu'ils ressentent de leur fils en prison. C'est-à-dire dans une espèce de compréhension qui rappelle un peu la compréhension weberienne, la sociologie compréhensive, c'est-à-dire comprendre les raisons de l'autre. Et je pense que ça aussi, ça a, dans l'effort que je faisais pour moi-même, donc ne pas souffrir, qui est passé d'ailleurs, je le signale pour l'anecdote, par le fait que j'ai fait une année d'université en tôle, j'ai fait ma première année d'histoire en prison. Donc, c'est par cette réflexion compréhensive sur l'autre, et je pense que c'est à l'œuvre encore dans mon travail. Donc, voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus, je ne veux pas en faire un martyrologe. On a bien tendance à faire de sa propre souffrance un martyrologe, et vous en avez donné pleinement l'exemple. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, à cette époque, moi-même, j'étais établi, en fait, à Peugeot, et j'ai passé 4 ans en usine. Un ami qui avait lui-même passé 4 ans en usine et qui est lui-même devenu historien disait que, finalement, on ne quittait pas l'usine. Et je crois bien pouvoir dire aussi qu'au fond, on ne sort jamais de prison.
Merci beaucoup.